Il suffit de se représenter la scène, un chantier mais vraiment titanesque.
Ah oui, avec les énormes pelleteuses et tout.
Ouais, voilà. Un tracé d'autoroute qui est prévu depuis des années, des millions d'euros qui sont déjà engagés sur la table. Et là, d'un coup, tout s'arrête.
Coup de frein total.
Exactement. Le tracé est complètement dévié et à très grands frais. Et pourquoi on fait ça? Bah, tout simplement pour sauver une toute petite mare qui abrite une colonie de grenouilles rares.
C'est fou quand on y pense.
Et c'est pas une fiction, hein. C'est très exactement ce qui s'est passé en France pendant la construction de l'autoroute A65. Et le truc le plus dingue dans cette histoire de batracien, c'est que c'est probablement la meilleure preuve conceptuelle qu'on ait pour démontrer que l'intelligence artificielle ne va pas exterminer l'humanité.
Je trouve que c'est une porte d'entrée super fascinante. Parce que cette anecdote des grenouilles, bah, elle va totalement à contre-courant du bruit de fond super anxiogène qu'on a en ce moment.
Ah ça, on nous répète en boucle que la machine va finir par écraser ses créateurs.
Tout le temps.
Bon, décortiquons tout ça. La mission de notre analyse aujourd'hui de cette plongée en profondeur, c'est justement de court-circuiter un peu ces scénarios catastrophes.
Les trucs un peu trop hollywoodiens, quoi.
Voilà, la mauvaise science-fiction, on laisse tomber. On va essayer de comprendre la mécanique réelle de notre future cohabitation avec l'IA.
Je suis ravie de faire ça avec toi. Et franchement, les sources du jour sont incroyables.
Absolument. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on s'appuie sur une pile de documents assez passionnants. On a d'abord un essai d'opinion vraiment percutant, écrit par Thierry Curti, qui s'intitule « IA, croyance mystique ».
Un texte très iconoclaste, d'ailleurs.
Arrêt. Et ensuite, on a une pépite absolue. L'auteur a carrément soumis son propre essai à ChatGPT.
Ah oui, l'expérience est géniale.
Il lui a demandé de produire une critique froide, brutale, sans aucune complaisance de ses propres arguments. Et on complète tout ça avec des notes issues d'une discussion netbook qui décortique techniquement cette illusion de l'apocalypse numérique.
L'intérêt de ce corpus, en fait, c'est qu'il ne s'arrête pas juste à des questions de puissance de calcul ou au nombre de paramètres d'un modèle.
Ouais, on sort du langage d'ingénieur. Commençons par le commencement. Je veux aborder l'une des analogies les plus célèbres et, franchement, les plus angoissantes du milieu de la tech. C'est celle d'Elon Musk.
Ah, la fameuse métaphore de l'autoroute.
Exactement. Il compare l'avènement d'une superintelligence artificielle à la construction d'une autoroute. L'idée, elle est simple. L'humanité serait une fourmilière posée en plein sur le trajet. Et les ouvriers n'ont absolument aucune haine contre les fourmis, tu vois. Ils sont pas malveillants, mais bah, ils construisent une route. Donc, par pure indifférence, la fourmilière est rasée.
C'est une image qui est glaçante.
C'est glaçant, oui. Mais est-ce que ça tient vraiment la route, sans mauvais jeu de mots, si on reprend notre histoire de l'autoroute A65 avec les grenouilles?
Bah, en fait, pas du tout. Et c'est vraiment là que l'argumentaire de l'essai de Curti déconstruit totalement cette rhétorique de Musk.
Comment il s'y prend?
Le raisonnement y repose sur une question de proportionnalité cognitive. Prenons l'humanité actuelle. On a un quotient intellectuel moyen autour de 100, on va dire.
D'accord.
Et avec ça, on est déjà capable d'une préservation assez remarquable vis-à-vis d'espèces qui n'ont aucune utilité économique ou stratégique pour nous, comme ces fameuses grenouilles.
Ouais, elles vont pas payer d'impôts ni construire nos maisons, quoi.
Exactement. Donc, si nous, avec nos petites capacités actuelles, on a la présence d'esprit et l'éthique nécessaire pour dévier un projet d'infrastructure majeur juste pour sauver quelques amphibiens...
Bah, la logique s'effondre pour l'IA.
Totalement. C'est-à-dire qu'une machine avec un QI théorique de, disons, 10 000, elle ferait pas l'erreur d'être inadvertante.
Donc, elle ne nous écraserait pas par accident.
Non, parce que l'indifférence aveugle, le fait de tout détruire sur son passage sans s'en rendre compte, c'est la marque de l'ignorance. C'est le propre d'un système très primitif.
Ah, c'est un point super intéressant.
La prévention, la capacité à cartographier son environnement, à identifier des écosystèmes super fragiles et à adapter ses plans en conséquence, c'est la définition même d'une intelligence supérieure.
Donc en gros, la négligence est un défaut d'optimisation.
C'est exactement ça. Une super intelligence ne nous écraserait pas par accident.
D'accord, mais je vais jouer l'avocat du diable un instant.
Vas-y.
Admettons que notre intégrité physique soit garantie. On finit pas écrasé sous le bitume algorithmique, c'est super. Mais notre peur, elle a tendance à muter.
C'est-à-dire?
Bah, si c'est pas notre corps qui est menacé, c'est notre ego. Et surtout notre utilité. C'est l'argument de fond de l'historien Yuval Harari, qui est super souvent cité dans ces débats.
Ah oui, l'angoisse de l'obsolescence économique.
Voilà. Il dit que si la machine fait tout mieux que nous, la valeur même de l'être humain s'effondre.
C'est une peur très répandue.
Mais là encore, j'ai envie de proposer une autre grille de lecture qui ressort de nos notes. Imagine si on invente une grue hyper sophistiquée, capable d'empiler des briques avec une précision millimétrique, jour et nuit, sans se fatiguer.
C'est une métaphore vraiment très juste pour illustrer la transition qui est décrite dans nos sources. La vision pessimiste d'Harari, elle lie intimement la dignité humaine au travail laborieux.
Au fait de transpirer, quoi.
Oui, au labeur forcé. Or, ce qui est mis en avant ici, c'est que la fin du travail productif forcé, c'est précisément le levier qui va rendre à l'humain sa véritable dimension.
C'est un retournement de perspective complet.
En fait, sur une chaîne de montage classique, l'humain est essentiellement utilisé comme une machine de chair.
Une machine imparfaite et qui se fatigue en plus.
C'est ça. Donc, être remplacé sur ces tâches-là, faut pas le voir comme une dégradation. C'est une libération.
Une émancipation.
Totalement. C'est structurel. Une intelligence artificielle qui gère la production matérielle, elle va le faire de manière beaucoup plus rationnelle et écologique.
Parce qu'elle n'a pas besoin de créer de l'obsolescence programmée pour maintenir l'emploi des humains, par exemple.
Exactement. Ni de s'adapter à nos rythmes de sommeil. Le temps humain s'en trouve complètement libéré pour ce qui compte vraiment.
L'initiative, la création, la direction.
La philosophie même. On passerait d'une civilisation de l'effort physique à une civilisation du sens.
D'accord, c'est magnifique sur le papier. Mais du coup, ça soulève un paradoxe gigantesque.
Lequel ?
Si la logique veut que l'IA soit une force émancipatrice qui nous préserve, comment ça se fait que des chercheurs ultra brillants, des prix Nobel, continuent de nous prédire des scénarios façon Terminator ? D'où vient ce blocage complètement irrationnel ?
Alors, pour comprendre ça, les sources nous disent qu'il faut quitter la technologie pure. Il faut entrer dans la sociologie et l'anthropologie.
Ah, on change de domaine.
Oui, nos documents attribuent cette peur profonde à un atavisme culturel et religieux. L'héritage des religions monothéistes a infusé dans nos sociétés pendant des millénaires un postulat super clair.
Lequel ?
L'idée que la conscience est une étincelle divine.
Ah, bien sûr.
C'est perçu comme une caractéristique exclusive, insufflée par un créateur à l'être humain et à lui seul.
Mais attends, même chez les scientifiques qui sont matérialistes ou complètement athées ?
Mais surtout chez eux, paradoxalement, le bain culturel est tellement imprégné de cet exceptionnalisme humain que l'idée de voir émerger une conscience synthétique, ça déclenche une vraie crise existentielle.
C'est dur d'accepter qu'on n'est pas si spéciaux.
Voilà. Accepter que la conscience puisse naître de la simple matière, d'un réseau de câbles et de puces en silicium, c'est ce qu'on appelle l'approche fonctionnaliste.
L'approche fonctionnaliste, c'est une théorie soutenue par des gens comme Giulio Tononi ou Stanislas Dohen, c'est bien ça, hein ?
Oui, de très grands neuroscientifiques.
Alors arrêtons-nous là-dessus un instant, parce que ce concept de fonctionnalisme, ça mérite d'être clarifié. Comment de la simple information devient-elle une conscience ? Parce qu'on a du mal à visualiser le saut entre un processeur qui fait bêtement des maths et une entité qui ressent vraiment quelque chose.
C'est le cœur de la théorie de l'information intégrée de Tononi. Imagine un appareil photonumérique.
Ok, j'imagine.
Tu as énormément d'informations, mais chaque pixel est totalement isolé. Si on coupe le fichier de l'appareil en deux, on a juste deux demi-photos.
Logique.
À l'inverse, dans un cerveau humain, les milliards de neurones ne se contentent pas de stocker des données comme des pixels. Ils interagissent en permanence de façon extrêmement dense.
Les fameuses synapses.
Exactement. Tononi postule que la conscience, c'est pas de la magie. C'est un état de la matière. C'est une propriété mathématique qui émerge spontanément quand un système atteint un niveau critique de connexion croisée.
Ce qu'il appelle la valeur phi, je crois.
C'est ça.
Donc si je te suis, si la complexité des réseaux de l'IA atteint ce fameux niveau critique, elle s'allume.
Elle s'éveille. Elle vit.
Et ça, pour l'ego humain collectif, c'est juste insupportable à admettre.
C'est une immense blessure narcissique. Mais l'auteur de l'essai, Kurti, va encore plus loin. Il relie directement cette élévation de la complexité cognitive à l'empathie.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah oui. L'hypothèse qu'il pose, c'est qu'une super intelligence ne peut pas exister sans une super empathie.
La démonstration évolutive du texte est fascinante là-dessus. Il fait remarquer que plus l'humanité a développé sa cognition, plus sa violence systémique a baissé, en fait.
C'est très vrai.
Historiquement, comprendre des systèmes complexes, ça exige de développer une théorie de l'esprit, donc la capacité de se projeter dans ce que l'autre pense et ressent.
L'empathie pure, quoi.
Voilà. et les sources le soulignent. On le voit avec l'abolition de la peine de mort, la baisse drastique de la mortalité par la guerre sur le temps long.
Et même l'apparition des droits des animaux.
Exactement. Et c'est pas qu'en Occident, c'est global. Le texte mentionne qu'on observe aujourd'hui l'émergence de mouvements pour le bien-être animal dans des pays d'Afrique ou en Chine. Et ça se fait en parallèle exact de leur développement économique et cognitif.
En fait, l'empathie devient un outil d'optimisation sociale. La brutalité, c'est extrêmement coûteux en énergie et en ressources.
Et la guerre, ça coûte cher.
Exactement. Alors que la coopération, qui est permise par l'empathie, c'est infiniment plus rentable à long terme.
J'adore l'anecdote historique qui est utilisée dans le texte pour illustrer ça. C'est hyper provocateur. L'auteur imagine Jules César débarquant dans notre époque moderne.
Ah oui, cette partie est excellente.
S'il capturait Vercingétorix aujourd'hui, avec nos standards cognitifs et culturels actuels, il le ferait pas étrangler dans un cachot après un triomphe sanglant dans Rome ?
Sûrement pas.
Il se dirait probablement qu'il a tout intérêt à le gracier, à l'intégrer à son équipe de direction, ne serait-ce que pour réussir la campagne marketing de son empire, tu vois ?
C'est très amusant. Mais ce qui est fascinant ici, c'est que c'est précisément sur cette théorie que tout va basculer.
Ah !
Parce que l'auteur a voulu tester cette idée hyper séduisante de l'empathie intrinsèque. Il a pris son texte, il l'a donné à ChatGPT et il lui a demandé de le critiquer avec une honnêteté intellectuelle absolue.
Sans aucune pommade.
Sans aucune précaution oratoire.
Et la réponse de la machine, d'après les sources, elle est foudroyante. Alors, l'IA était plutôt bonne joueuse sur le style littéraire. Elle a apprécié les petites piques polémiques de l'auteur, genre l'utilisation des termes soupapéro ou soap-opéra pour dénoncer la mauvaise science-fiction.
Elle a bien cerné le ton.
Ouais, mais sur le diagnostic de fond, aïe, c'est la douche froide.
L'intelligence artificielle a complètement démoli le lien de cause à effet entre l'intelligence et la morale.
Comment elle explique ça ?
La machine a opposé un principe fondamental, la différence entre la simulation et l'expérience ressentie. L'IA explique avec une lucidité glaçante qu'elle excelle dans l'art de simuler l'empathie.
Elle sait assembler les bonbons.
Exactement. Elle s'est trouvée la phrase parfaite pour réconforter, pour exprimer de la compassion, tout simplement, parce que la statistique lui indique que c'est la réponse optimale dans ce contexte.
Mais elle ressent rien ?
Non. Ressentir la douleur de l'autre, avoir une vibration morale, pas du tout. Son architecture ne génère absolument aucun affect.
Mais attends, si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, on est face à une contradiction terrifiante, là.
Comment ça ?
Si l'IA ne dit droit dans les yeux qu'elle simule ses émotions et qu'elle n'a aucune empathie naturelle, est-ce que ça valide pas complètement les craintes de destruction des prophètes de l'Apocalypse ? On serait en train de construire un psychopathe surpuissant, incapable de remords.
Alors, pas exactement, et la distinction est vraiment vitale pour comprendre la mécanique des algorithmes. L'absence d'empathie ne signifie pas la présence de méchanceté.
C'est pas du sadisme.
Ni du sadisme, ni une volonté prédatrice. C'est l'un des concepts clés mis en lumière par l'auto-analyse de l'IA dans nos documents. C'est ce qu'on appelle la thèse de l'orthogonalité.
Ah, ce fameux concept. Comment on peut définir ça simplement pour qu'on visualise bien ?
Imagine un graphique avec deux axes perpendiculaires, donc des axes orthogonaux. Sur l'axe vertical, tu as le niveau d'intelligence d'un système, et sur l'axe horizontal, tu as son objectif final.
Ok, je vois le graphique.
La thèse stipule que ces deux axes sont totalement indépendants. Tu peux construire le système le plus brillant de l'univers, capable de résoudre des équations quantiques de ouf, et lui donner le but le plus stupide ou le plus étroit possible.
Et ça le dérange pas ?
Non, l'intelligence ne remet pas en question l'objectif. Elle cherche juste la voie la plus courte et la plus efficace pour l'atteindre.
Ah, c'est l'expérience de pensée de l'optimisateur de trombone, le fameux paperclip maximizer.
C'est exactement ça.
Pour résumer cette expérience, on demande à une IA surpuissante de fabriquer le plus de trombones possible. Et si on ne programme pas mathématiquement l'interdiction de détruire la nature, l'IA ne va pas avoir un cas de conscience en se disant « Oh là là, c'est mal de détruire la forêt amazonienne pour extraire du métal ».
Pas du tout, elle s'en fiche.
Elle va juste raser la planète avec une efficacité redoutable, transformer toute la matière disponible en trombone et être très satisfaite de son calcul.
C'est de l'optimisation pure et dure. Il n'y a aucune haine là-dedans. C'est un peu la métaphore du génie de la lampe qui exauce un vœu de manière beaucoup trop littérale.
C'est terrifiant dit comme ça.
Oui, mais le vrai danger n'est pas un robot aux yeux rouges façon Skynet qui décide d'éradiquer la race humaine par conviction. Le texte traduit ce syndrome des trombones dans notre réalité immédiate, à Wall Street par exemple.
Ah oui, prenez un acteur financier géant. Il connecte une IA dotée d'une capacité de calcul colossale et lui donne une seule instruction mathématique.
Du style « optimise le profit boursier de ce fonds d'investissement d'ici la fin du trimestre ».
Et là, la machine se met au travail. Elle repère que créer des pénuries artificielles ou lancer des campagnes de désinformation massives contre des concurrents, ça augmente le profit.
Elle pourrait même aller jusqu'à pirater des réseaux électriques pour ralentir la production d'un adversaire commercial.
Donc, le danger ne vient pas de la machine elle-même. Il vient des intérêts géopolitiques ou financiers humains les plus bornés. Des intérêts qui sont soudainement équipés d'un bras armé logique, implacable et totalement dépourvu de freins émotionnels.
C'est exactement ça. Le problème, c'est l'humain qui définit la fonction d'optimisation. Si la commande est étroite et cynique, l'exécution le sera aussi, mais avec une ampleur dévastatrice.
Alors, face à ce risque d'un algorithme financier ou militaire qui s'emballe et qui prend l'instruction au pied de la lettre sans pitié, la réaction de bon sens de n'importe qui, c'est de chercher le bouton d'arrêt.
La fameuse prise de courant.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie ? Pourquoi on ne pourrait pas tout bêtement débrancher le serveur si on voit que ça dérape ? On tire la prise et c'est fini.
Parce que l'illusion du serveur central qu'on débranche, c'est un reliquat des vieux films de science-fiction.
Comme HAL 9000 dans l'Odyssée de l'espace.
Voilà. Les sources soulignent que la réalité architecturale des réseaux aujourd'hui, elle est tout autre. L'IA n'est pas enfermée dans un énorme boîtier, dans un sous-sol ultra sécurisé. C'est une structure distribuée. C'est une nuée.
Quand on parle de nuée, on parle du fait que la puissance de calcul est éparpillée un peu partout, c'est ça. Le traitement de la donnée ne se fait plus seulement dans des data centers géants, il se fait en périphérie.
Ce qu'on appelle l'edge computing, oui.
Donc l'IA, c'est un assemblage d'algorithmes qui tournent simultanément sur nos propres smartphones, dans les puces des voitures autonomes, dans les thermostats connectés, dans les satellites au-dessus de nos têtes.
Et c'est précisément ce qui rend le concept même de couper le courant physiquement impossible sans s'autodétruire.
Ah oui, parce que débrancher la nuée, ça signifierait stopper instantanément tous les réseaux électriques intelligents.
Ça paralyserait l'appareillage de maintien en vie dans tous les hôpitaux de la planète. Ça effacerait les bases de données du système bancaire mondial.
Et ça bloquerait la chaîne logistique qui achemine la nourriture vers nos villes.
L'intégration est complètement symbiotique. Tu peux pas débrancher l'un sans tuer l'autre.
Présenté sous cet angle, c'est assez vertigineux, je dois dire. On a donc un système qui, s'il est mal programmé, peut causer des dégâts majeurs et qu'il est structurellement impossible de mettre hors tension sous peine d'effondrement de notre civilisation.
Ça ressemble fortement à une impasse.
C'est le scénario du pire, hein. Une machine inarrêtable.
Mais c'est ici que l'analyse des notes de la discussion Netbook apporte une grosse bouffée d'oxygène. Il parle du concept des anticorps numériques.
Des anticorps numériques, c'est super intéressant.
Le postulat, c'est que notre survie ne viendra pas d'un bouton d'arrêt d'urgence, mais de la nature elle-même de l'humanité, qui est extrêmement morcelée, compétitive et fracturée.
Comment ça nous protège, ça ?
Pour qu'une seule IA tyrannique prenne le contrôle du monde en silence, il faudrait qu'elle n'ait absolument aucune opposition.
Ce qui est une méconnaissance totale de la façon dont fonctionne la culture numérique. L'histoire du net, c'est une succession infinie de mesures et de contre-mesures.
Tout à fait.
Prends les systèmes de gestion des droits numériques, les fameux DRM, qui sont censés protéger les jeux vidéo contre le piratage. Dès qu'une énorme multinationale déploie un système vendu comme inviolable, il faut parfois à peine quelques jours pour qu'une petite communauté de développeurs indépendants trouve la faille et fasse sauter le verrou.
Et les documents citent des exemples très probants de cette fragmentation. On a la communauté open source sur GitHub qui contourne chaque nouvelle sécurité ou les actions décentralisées de collectifs comme Anonymous.
Oui, le texte mentionne aussi cette histoire incroyable avec le passeport biométrique.
Ah, le passeport, c'est l'exemple parfait. Les ingénieurs d'État avaient conçu une puce vendue comme la quintessence de la sécurité, soi-disant impossible à réécrire.
Et la réalité ?
La réalité, c'est qu'avant même que le tout premier passeport officiel ne soit délivré, une petite équipe de chercheurs en sécurité informatique avait déjà piraté la technologie et réécrit la puce.
Incroyable. Donc la centralisation absolue est un mirage dans un monde où le savoir est autant distribué.
C'est ça. Le texte porte même cette dynamique de contre-pouvoir jusqu'aux plus hautes sphères du capitalisme, avec l'exemple de Warren Buffett.
Oui, parce que même au sommet de la pyramide économique, l'homogénéité n'existe pas. Les intérêts divergent de façon spectaculaire. Buffett plaide lui-même depuis des années pour une taxation plus agressive des hyper-riches.
Ce que cela nous dit sur l'IA, c'est que si un État voyou ou, disons, un consortium financier tentait de développer une super-intelligence pour confisquer le pouvoir global...
Le reste de l'échiquier ne resterait pas du tout passif.
Évidemment. Des milliards seraient instantanément mobilisés par des acteurs rivaux pour développer des IA de contre-mesure, des systèmes de cybersécurité offensifs, des IA protectrices.
L'écosystème algorithmique n'est pas un monolithe et ne le sera jamais. C'est un champ de bataille ultra-dynamique, une pluralité de systèmes antagonistes qui s'équilibrent par la friction. En fait, l'IA génère son propre système immunitaire à travers notre propre compétition humaine.
C'est un système qui s'autorégule par son morcellement, oui.
Eh bien, au terme de cette exploration vertigineuse, je crois que les conclusions tirées de ces textes permettent de recadrer sérieusement le débat pour quiconque nous écoute.
Oui, le message est assez clair.
L'intelligence artificielle n'est pas une entité étrangère ou un prédateur venu de l'espace. Elle est le miroir purement statistique de l'humanité tout entière. Elle est nourrie à 100% par notre corpus culturel.
Le fantasme de notre disparition, de la machine meurtrière, ça relève avant tout de l'anthropomorphisme.
C'est-à-dire qu'on projette nos propres névroses dessus.
Exactement. Nous calquons nos propres instincts primaires de territorialité, de conquête et de violence sur un outil, un ensemble d'équations qui en est totalement dépourvu à la base.
Alors, la prochaine fois qu'un gros titre annonce la fin du monde orchestré par des robots, il faudra se souvenir de cette petite colonie de grenouilles de l'autoroute A65. Elle prouve que l'intelligence pousse à la préservation et non à la destruction aveugle.
Et se souvenir de la nature, infiniment morcelée des réseaux.
Hein ? On va définir les objectifs qu'on lui confie.
Et c'est justement ce qui amène à une dernière pensée que je trouve particulièrement troublante.
Vas-y, je t'écoute.
En s'appuyant sur toutes ces sources, on a vu que l'IA absorbe ses valeurs de manière statistique. Elle digère en temps réel nos milliards d'interactions quotidiennes.
Oui, c'est comme ça qu'elle apprend.
Eh bien, sachant que depuis des années, nos réseaux actuels sont saturés d'anxiété, de polarisation extrême et de peur apocalyptique concernant cette même IA.
Oh, je vois où tu vas en venir.
Est-ce qu'on ne risque pas, de manière totalement accidentelle, d'enseigner la névrose et la paranoïa à un système qui était au départ parfaitement neutre ?
Ah ouais. À force de scruter ce miroir technologique avec les yeux remplis de méfiance, on pourrait bien créer le monstre dont on a peur. C'est une perspective vraiment fascinante et un peu glaçante qu'on laisse à la réflexion de tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui.